Bonsoir à toutes et à tous. Un incident nucléaire, ça n'est jamais anodin, surtout quand il se passe en Russie. Voilà pourquoi depuis jeudi, le monde s'inquiète et cherche à en savoir plus autour d'une explosion qui a eu lieu dans le grand nord du pays. Officiellement, c'est un test militaire sur de nouvelles armes qui auraient mal tourné, mais les Américains semblent douter de cette version et les taux de radioactivité recensés dans la ville voisine racontent une autre histoire. Pas bon, not good. Voilà ce qu'a tweeté un Donald Trump énigmatique. Quelle est la réalité? On va évidemment chercher à en savoir plus. Quelles sont les conséquences réelles de cet accident? La Russie a-t-elle tiré tous les enseignements de Tchernobyl? Assistons-nous à un retour de la course aux armements et notamment aux armements nucléaires? Et accessoirement, le nucléaire est-il plus sûr chez nous? Nucléaire donc, vous l'avez compris, que s'est-il vraiment passé en Russie? C'est le titre de l'émission de ce soir. Et on attend vos réactions, vos questions aussi, pour alimenter notre discussion par SMS, sur Internet ou sur les réseaux sociaux. On va en parler avec le général Dominique Trinquant. Vous êtes expert des questions de défense, évidemment, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous avez passé 20 ans aux Nations Unies. Bruno Tertrais, chercheur en géopolitique, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez notamment signé La revanche de l'histoire chez Odile Jacob. Armelle Charrier, éditorialiste, spécialiste des questions internationales chez nos confrères de France 24. Et Nabil Wakim, spécialiste, lui, des questions d'énergie et donc en particulier du nucléaire pour le journal Le Monde. Vous signez ce soir un article sur le flou qui entoure cet accident et vous y évoquez un mystérieux missile invincible. Missile invincible. Commençons par le flou dont vous parlez. Peut-être qu'on en sait. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé jeudi dernier dans le nord, le grand nord de la Russie?
Alors, on sait un certain nombre de choses. On sait qu'il y a eu un accident sur un site nucléaire, une plateforme offshore d'un site nucléaire russe dans le grand nord, dans la mer Blanche. Donc, on est à l'est de la Finlande, dans le grand nord russe. On sait qu'il y a eu au moins 5 morts à la suite d'une explosion. Peut-être plus, c'est difficile d'en savoir plus tant les autorités russes sont peu transparentes sur le sujet. Mmh. Et puis, elles ont donné ces derniers jours des versions différentes de ce qui s'est passé. Si on reconstitue, aujourd'hui, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il s'agissait de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillaient sur des nouveaux armements, ça c'est la version officielle des autorités russes, qu'il y a eu une explosion liée à un petit réacteur nucléaire. Était-il lié directement à ce missile ou pas? C'est difficile de le dire. Plusieurs experts, notamment américains, y ont vu immédiatement un lien avec les nouveaux missiles que Vladimir Poutine entend lancer en Russie et des missiles que lui-même a décrits comme étant indétectables et pouvant faire plusieurs fois le tour de la Terre. Donc, une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Ensuite, il y a une autre question sur laquelle il y a des interrogations, c'est quelles sont les conséquences en termes de contamination radioactive pour les populations immédiatement autour. Alors, il y a un village autour où il y a 400 habitants, mais il y a deux grandes villes qui ne sont pas très loin, notamment Arkhangelsk, dans lequel il y a près de 400 000 habitants. Ce qu'on sait, c'est que les habitants de ces villes-là se sont rués sur les pharmacies pour se doter en pastilles d'iode pour se protéger. Les autorités russes, là aussi, ont eu une attitude assez contradictoire. Elles ont dit, dans un premier temps, il n'y a pas de contamination. Il y a des autorités locales qui ont dit qu'il y en avait une. Finalement, aujourd'hui, on apprend qu'il y a une contamination qui est 16 fois supérieure à la normale, mais qu'elle est en deçà des normes maximales autorisées en Russie. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que compte tenu de la faible transparence des autorités russes, on parle de nucléaire, on parle de nucléaire militaire, on parle d'un site secret défense, donc évidemment, les autorités russes sont peu transparentes. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un accident et qu'il aura très certainement des conséquences.
Général, est-ce qu'il faut croire les Russes ?
Il faut croire les Russes sur le fait, après la description de l'incident, que c'est un incident qui intervient sur des systèmes qui ont été déjà présentés par M. Poutine il y a 2 ans. C'est-à-dire le fait d'avoir une propulsion nucléaire sur un missile, on sait que les Russes veulent travailler là-dessus. Et il faut se souvenir aussi que la prise de conscience du président Poutine de la déliquescence de la marine russe date de l'incident du Koursk, qui était lié aussi à la marine russe et à l'usage nucléaire dans la marine russe. Donc je pense que à la fois cette prise de conscience il y a de nombreuses années maintenant et le fait qu'ils veuillent travailler sur la pointe du progrès, parce qu'avoir un missile à propulsion nucléaire, c'est quand même la pointe du progrès.
Personne ne le fait ?
Non, les Américains ont abandonné. Ils ont trouvé que c'était trop compliqué.
Trop risqué ? Trop dangereux ?
Vous savez, la propulsion nucléaire chez nous, pour prendre un exemple chez nous, c'est quoi ? C'est le porte-avions, c'est un sous-marin nucléaire, c'est une usine. C'est une véritable usine. Donc imaginez mettre ça sur un missile, c'est extrêmement compliqué de miniaturiser, de rendre tout petit cette
usine. D'où les risques physiques d'après le communiqué militaire qu'auraient pris les 5 hommes qui ont d'ailleurs été décorés à titre posthume. Je cite, on salue le risque physique qu'ils ont pris d'effectuer des tests uniques, c'est ça, hein ?
Oui, mais ça, si vous voulez, c'est dans la mentalité russe. Ce sont les héros qui travaillent pour la patrie et qui ont réussi à travailler, qui l'ont fait au péril de leur vie. Ça, c'est tout à fait dans la mentalité russe aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Bruno Tertrais, en Russie, là ?
Il y a exactement... Oui, je crois qu'on peut quand même avoir une petite idée de ce qui s'est passé. Je refais le fil de l'histoire très rapidement. Il y a 20 ans, il y a exactement 20 ans, Vladimir Poutine arrive à Moscou, arrive au pouvoir, plutôt. 10 ans plus tard, après le Koursk, bien sûr, mais aussi avec la guerre de Géorgie, il constate que l'armée russe, est encore un héritage soviétique. Et il donne un petit peu ordre au bureau d'études, aux industries militaires russes, il leur lâche la bride, pour faire simple. Elle est expérimentée. Allez-y, vous avez de l'argent maintenant.
Feu
à volonté. Et ce système qui s'appelle, dans le nom de code américain, qui s'appelle Skyfall, comme un James Bond, hein, c'est
incroyable.
C'est un peu un hasard. Mais Skyfall, c'est un système, comme disait le général Trinquant, qui a été. Enfin, c'est un principe, la propulsion nucléaire pour des missiles, ça a été abandonné dans le milieu des années 60 par les Américains. C'est extraordinairement dangereux. Pour un bénéfice, qui est quoi ? C'est quoi l'idée ? C'est l'idée de pouvoir faire voler un missile de croisière pendant des heures, des jours peut-être. Il pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre, ça ne veut pas dire grand-chose, on n'a pas besoin d'aller plus loin que le tour de la Terre. Donc ça fait partie effectivement de ces nouveaux systèmes qui ont été présentés publiquement par Vladimir Poutine il y a un an et demi lors de son discours sur l'état de l'Union de manière très solennelle avec des vidéos en 3D. Le message, c'est pas seulement « nous sommes de retour », mais c'est « nous sommes désormais » de nouveau, une grande puissance militaire. Et c'est troisièmement, on est aussi moderne que les Américains. Seulement, ils sont peut-être allés trop vite et sur des choses qui sont effectivement apparemment très dangereuses.
Donc c'est la précipitation, finalement ?
Je ne sais pas si c'est la précipitation.
C'est cette course à bride abattue que vous décrivez pour satisfaire le président.
Oui, vous avez raison,
c'est ça. Qui pourrait avoir causé ce qui s'est passé.
Surtout sur des technologies qui sont extraordinairement dangereuses. Et donc, l'essai, moi, je n'ai pas les détails de l'essai qui a été fait. Mais on sait, parce que les Américains ont testé ça dans les années 60, ils ont abandonné. Ils voulaient même faire, à l'époque, il y avait un programme qui s'appelait Narva pour aller dans l'espace, des fusées interplanétaires, qui seraient propulsées par ce type de réacteur.
Après, James Bond, c'est Star Wars.
C'est Tintin, même, d'ailleurs. On a marché sur la Lune, voilà. C'est de la propulsion
exactement.
Nucléaire.
C'est l'époque de Tintin, c'est l'époque dont on a marché sur la Lune. Ils ont abandonné ça, trop dangereux.
Comment est-ce qu'on l'a appris, d'un mot ? Est-ce que les Russes pouvaient le cacher, ce qui s'est passé ?
C'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux fonctionnent quand même. Il peut y avoir des images, etc.
Satellite,
etc.
Hein ?
Oui, bien sûr. La surveillance, en particulier par les satellites américains, des sites d'expérimentation russe, est avérée. C'est de bonne guerre, hein, c'est normal. Et toute explosion un peu importante est repérée à un moment donné.
Que c'est Donald Trump qu'il ne dit pas ? Son tweet est assez énigmatique. Not good, pas bon.
Que c'est pas bon, mais qu'en même temps, ils savent très bien de quoi est-ce qu'il parle. Je pense qu'au travers du tweet, il dit aussi une partie de ça. C'est-à-dire qu'il rappelle que c'est une technologie sur laquelle les Américains ont travaillé, donc qu'il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. En même temps, ce que vous mettez tous sur la table, c'est le fait qu'à un moment donné, on a eu une bascule entre l'Union soviétique et la Russie, et que maintenant, on est sur un État qui est fondamentalement nationaliste. Donc aujourd'hui, il y consacre une partie de son argent, il consacre une partie de sa recherche, il consacre une partie de ses scientifiques. On a vu effectivement l'armée russe récupérer à chaque fois une part de ce qu'elle pouvait apporter. On l'a vu aussi lorsqu'il y avait la guerre en Crimée, où on a vu les forces spéciales russes être en place. Donc il y a la volonté aujourd'hui d'avoir une cohérence avec justement les armes et les armées qui sont en face. Et on parle évidemment des Américains, mais derrière, il y a aussi la Chine qui monte en puissance. Donc la nécessité pour les uns et pour les autres est quand même de se mettre à niveau le plus rapidement possible, ce qui explique vraisemblablement que les Russes font ce qu'ils font toujours très bien su faire, c'est-à-dire qu'ils avancent à marche forcée avec une question qui est que la question humaine, quand vous dites la dangerosité qu'on peut prendre, le principe même du risque, il n'est pas du tout le même qu'on soit en Occident ou qu'on soit dans différents pays. Dans un pays comme la Russie, c'est le succès qui l'emporte. Et il y a aussi, quelque part, le souvenir que les Russes aussi n'ont pas marché sur la Lune, alors que c'est justement ce qu'on a retenu, c'est l'Américain qui a marché sur la Lune, alors qu'ils avaient mis le premier satellite en orbite. Donc tout ça est quand même dans une logique très vindicative aujourd'hui.
Une certitude, l'incident ou l'accident s'est produit jeudi dernier, donc dans le grand nord de la Russie, au large de la petite ville de Nyonoksa. Il faut savoir que c'est une région qui est truffée de bases militaires et de centres de recherche nucléaire. C'est un drame qui a coûté la vie à au moins 5 personnes. Et il se produit, vous l'avez rappelé, au moment où Vladimir Poutine annonce avoir mis au point un nouveau missile ou souhaite mettre au point un nouveau missile invincible à propulsion nucléaire. Retour sur les faits et sur les doutes qui entourent la version officielle avec Maël Kerguénou et Christophe Roquet.
Après l'accident, l'hommage. Hier, des milliers de personnes se sont recueillies pour saluer les 5 victimes de l'explosion survenue dans le Grand Nord russe. Une cérémonie officielle en présence d'un représentant du Kremlin.
Ils ont pris une double responsabilité. Dans le développement de technologies et d'équipements uniques, et en prenant le risque physique d'effectuer des tests. Malheureusement, peu importe le temps que vous prenez à vous préparer et à calculer à l'avance, il n'est jamais impossible d'éliminer les risques à 100%.
L'explosion a eu lieu jeudi dernier, ici, au large de Nyonoksa, sur une base spécialisée dans les essais de tirs de missiles. Aucune image n'a filtré. Pourtant, le bilan est lourd. Plusieurs employés de l'agence nucléaire russe ont été projetés dans l'eau. 5 personnes ont trouvé la mort. 3 autres ont été blessées. Quelques heures plus tard, la mairie d'une commune à 30 km de là assure avoir enregistré une hausse de la radioactivité. C'est la panique. Les Russes se ruent dans leur pharmacie.
En une heure, on a vendu tous les stocks d'iode. Nous avons distribué des fiches contenant toutes les règles à suivre en cas de contamination radioactive. Nous la montrons à tous les clients. La fiche contient les doses d'iode en fonction des âges.
Les autorités russes refusent alors de parler d'accident nucléaire. Pendant 2 jours, Moscou reste silencieux avant de finalement avouer.
Nos experts ont établi avec des mesures précises que les niveaux de radiation avaient effectivement doublé, mais que cela n'avait pas duré plus d'une heure. Il n'y a pas eu de pollution due à des résidus nucléaires détectés par nos experts en interne ou même par des experts indépendants.
Le taux de radioactivité aurait finalement dépassé jusqu'à 16 fois le niveau habituel, sans pour autant présenter un danger pour la santé. Mais les risques sont bien réels, selon Greenpeace.
Bien sûr, je ne comparerai pas cela à Tchernobyl. Mais en général, à présent, en Russie, il y a un gros problème pour avoir une attitude responsable avec les déchets radioactifs. Il n'est pas si important de savoir si un accident s'est produit dans le réacteur ou si les déchets nucléaires se sont perdus dans la rivière. Ce qui est important, c'est le rapport global de toute l'industrie avec les questions de sécurité.
Selon des experts américains, l'accident serait intervenu lors de tests réalisés sur une nouvelle arme, le Burevestnik, alias l'oiseau de tempête. Un nouveau projet dévoilé en grande pompe l'an passé, la fierté de Vladimir Poutine.
Volant à basse altitude, portant une ogive nucléaire avec une portée presque illimitée et la possibilité de contourner les boucliers. Ce missile de croisière discret est invincible pour tous les systèmes de défense antimissile et de défense aérienne existants et futurs.
Une démonstration de force pour mieux occulter les faiblesses. 3 jours avant cet accident nucléaire, une autre explosion a eu lieu dans un centre de munitions cette fois. Bilan, 1 mort, plusieurs blessés et 10 000 habitants évacués. En juillet, c'était déjà 14 officiers de l'armée russe qui avaient été tués dans l'incendie d'un sous-marin nucléaire. Là encore, la Russie avait gardé le silence, invoquant le secret d'État. Pas de quoi perturber en tout cas Vladimir Poutine, qui lancera cette année la première centrale nucléaire flottante du monde, déjà décrite par les associations écologistes comme un Tchernobyl sur glace.
Question d'Olivier qui nous regarde dans l'Aisne. Des risques sanitaires sérieux sont-ils à craindre après l'accident de Dnionoska ? Qui peut répondre à cette question ?
Personne ne peut répondre à cette question, sauf les autorités russes.
C'est bien notre inquiétude.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'affirment les autorités russes, c'est des niveaux de radioactivité qui sont malgré tout relativement faibles. Donc si c'est vrai, les conséquences sur la santé ne sont pas très importantes. Si c'est faux et que ces niveaux sont bien supérieurs, oui, il peut y
quand
avoir
des
conséquences.
Quand on dit 16 fois supérieur à la normale, pour qu'on ait une idée, on considère que c'est faible.
Alors,
c'est inoffensif.
À la fois, c'est beaucoup, mais compte tenu de la radioactivité.
Quel est le niveau d'alerte ?
Voilà. Alors, ça dépend. D'abord, il n'est pas le même dans tous les pays. Mmh. Donc, il y a des différences entre la Russie, la France, les États-Unis, le Japon, n'ont pas les mêmes normes sur la radioactivité. Et ensuite, tout dépend aussi du contexte et puis du temps d'exposition. C'est-à-dire, si on est exposé 20 minutes ou si la radioactivité est redescendue très vite, comme l'affirment les autorités russes, ce n'est pas la même chose si les niveaux élevés de radioactivité restent présents pendant des jours et des jours et que des populations entières y sont exposées très longtemps.
Ça veut dire qu'on ne sait pas non plus si la Finlande voisine peut en avoir des répercussions.
Alors pour l'instant, la Finlande et la Norvège disent ne pas avoir mesuré de niveau de radioactivité anormaux, mais les Finlandais précisent que les vents allaient plutôt dans l'autre sens, soufflaient plutôt en direction de l'Est. Donc maintenant, à voir comment aussi la météo évolue ces prochains jours et si cela a des impacts.
Oui, parce qu'on sait depuis Tchernobyl que les nuages passent les frontières. Hein.
Paraît-il.
Ouais. On sait quelles mesures ont été mises en place depuis l'accident ? Dans les villes où se trouvent des civils, quelles sont les mesures connues que les Russes mettent en place dans ces situations ?
Non, on l'a signalé tout à l'heure, la prise de médicaments, enfin de pastilles pour lutter contre la radioactivité. Mais c'est vrai que c'est important, les vents bien sûr, mais aussi le problème de la radioactivité, c'est un problème dans le temps. Il faut être exposé longtemps en fait, à la radioactivité pour avoir vraiment une... alors on ne sait pas, en revanche... La protection civile dans la région, alors que ce sont des bases sur lesquelles il y a effectivement risque nucléaire de toute façon, mais apparemment en Russie, les mesures de protection de la population ne sont pas exactement les mêmes que nous. Et on voyait bien dans le reportage, l'enterrement, c'est toute la population locale qui vit un peu de ça. Donc elle est totalement impliquée dans cette affaire-là, et la prise de risque en Russie n'est pas exactement le même niveau que la prise de risque chez nous. Ils considèrent que, d'une certaine façon, ils participent à l'effort national. C'est un pays très nationaliste.
Se faire contaminer éventuellement, c'est participer à l'effort national.
Tant qu'on n'arrive pas. Souvenez-vous de l'intervention des militaires qu'on avait envoyés à Tchernobyl. Il y avait des gens, ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Ils allaient mourir, mais ils y allaient parce que c'était leur devoir et qu'ils y allaient. Mmh. Alors, on ne sait pas très bien quelle est la mentalité de ces populations.
Au Japon aussi,
surtout.
Fukushima
oui,
aussi.
Oui,
c'est pas
vrai.
Spécialement russe.
Oui, mais les ont envoyés dans des conditions absolument catastrophiques.
C'est vrai.
Au Japon, ils prenaient des mesures de protection quand même.
Oui, il y avait des gens qui ont été envoyés qui ne savaient pas s'ils allaient faire. La question est de savoir si la Russie, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, a une culture du risque de manière générale, pas seulement sur le nucléaire.
C'est ça qui nous inquiète.
Qui est différente de la nôtre.
Oui.
La réponse est. Probablement oui, surtout avec Vladimir Poutine qui vous souffle dans le dos pour dire il faut y aller. Bien, ceci étant posé.
Et du silence ?
Pardon ?
Et du silence ? Est-ce que ça a évolué depuis Tchernobyl ? Est-ce que par exemple, les populations locales réclament plus de transparence ?
Mais bien sûr, le silence ne peut plus être le même, même dans un régime aussi autoritaire que la Russie d'aujourd'hui. On ne peut plus avoir l'équivalent de Tchernobyl et le cacher à la population, ça n'est plus possible. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux russes. On a tout de suite vu sur les réseaux sociaux russes. Franchement, ça a été comme une espèce de traînée de poudre, si j'ose dire. Bon, alors attention quand même. Là, je crois qu'on est tous en train de parler d'un sujet, enfin, d'un événement qu'on ne connaît pas tellement. Mais moi, je vais juste donner une hypothèse. S'il s'agit d'un incident grave sur un réacteur destiné à propulser un missile... C'est un truc qui fait cette taille-là, et ce n'est pas une bombe atomique, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un réacteur nucléaire. Je ne vais pas dire que je sais ce qui s'est passé, je partage les doutes qui ont été émis tout à l'heure, mais à mon avis, l'hypothèse la plus probable, c'est un incident très grave sur un tout petit réacteur qui dégage des isotopes et qui, de la radioactivité, si vous voulez, encore qu'il n'y a pas... Ce n'est pas des particules, hein, s'il y a eu une explosion avec des particules... contaminés sont allés dans l'atmosphère, c'est, à mon avis, pas aller très loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est cette hypothèse-là, surtout, il ne faudrait pas que les téléspectateurs se disent « il y a eu un autre Tchernobyl dans le Grand Nord et on va nous le cacher ».
On fait cette émission pour poser ces questions et pour mettre les informations sur la table.
Mais finalement, un des les spectateurs qui ont vu la série Tchernobyl et qui en sont familiers reconnaîtront au moins un point commun. Et Bruno Tertrais a raison de souligner qu'il ne s'agit pas d'un réacteur pour une centrale. Donc on est probablement à des niveaux qui sont beaucoup, beaucoup plus petits en termes de puissance. Mais le point commun, c'est l'absence de transparence. C'est la difficulté pour les autorités russes d'assumer ce qui s'est passé, de l'expliquer aux populations.
Malgré les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Absolument. Et Bruno Tertrais a raison de dire il y a eu un déchaînement. En tout cas, les Russes se sont emparés des réseaux sociaux, y compris localement. Le New York Times faisait état aujourd'hui d'un habitant de la ville voisine qui disait « Moi, je ne suis pas critique du gouvernement, mais si un mini Fukushima est en train de se produire juste à côté de chez moi, je veux que le gouvernement m'explique ce qu'il faut faire. » Et c'est vrai qu'on parlait de ce qu'il faut faire en cas de contamination. Mmh. En cas de contamination, il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises par les populations, de se confiner, de fermer les fenêtres, etc. Mais pour tout ça, il faut de la transparence. Il faut que les autorités donnent des consignes à la population, qu'elles leur expliquent ce qu'il faut faire. Et donc là, il y a une vraie interrogation pour le pouvoir russe, et qui sera peut-être, l'avenir nous le dira, peut-être plus une question politique qu'une question simplement d'accident militaro-industriel.
Il y a déjà eu des alertes d'ailleurs de ce type-là.
Alors, je rebondis simplement là-dessus. Non seulement il faut informer la population, mais dans une zone comme celle-là, elle devrait être informée avant. C'est-à-dire quelles sont les mesures. Mais la difficulté d'informer avant, c'est de faire sentir
qu'il peut y avoir un risque.
Les essais qu'on est en train de mener. Et on ne veut pas inquiéter les populations. Donc on ne leur dit pas qu'il risque d'y avoir un problème nucléaire avant, alors que normalement, elle devrait être entraînée à ça, bien sûr.
La population locale sait qu'il y a à proximité une ville fermée qui s'appelle Sarov, ce que nous pouvons lire, et que cette ville fermée a été finalement la mère des essais nucléaires russes depuis les années 50 ? Ils le savent, les Russes ?
Alors, oui, bien sûr. Sarov, ce n'est pas exactement à proximité. C'est-à-dire, les ingénieurs qui sont morts là venaient de Sarov et travaillaient à Sarov. Sarov, c'est plutôt à l'est de Moscou. Et c'est effectivement un site qui est central dans l'histoire nucléaire russe, puisque c'est là qu'a été conçu, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais qui a été conçu la première bombe russe, et que la Russie mène des essais sur place depuis très longtemps sur tous les sujets nucléaires. Donc, le fait que ces ingénieurs-là viennent de Sarov, qui est une ville qui vit uniquement autour du nucléaire, est très significatif.
C'est quoi une ville fermée ?
Ce qu'on appelle les villes fermées, c'était des villes...
Rien que le mot est incroyable, honnêtement.
Oui, et surtout quand on sait qu'elles n'existaient pas sur les cartes soviétiques. C'était des villes qui, littéralement, n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas sur les cartes, puisqu'il ne fallait pas que l'adversaire, l'ennemi, les États-Unis en l'espèce, puisse savoir qu'à cet endroit-là, on avait tel ou tel type d'activité militaire. Donc la ville de Sarov s'appelait Arzamas 16, je crois, et était l'un des principaux centres de recherche militaire et nucléaire en Russie. Donc la question qu'on posait tout à l'heure est intéressante parce que autour d'une ville comme Sarov, maintenant tout le monde sait ce qu'on y fait. Bien. Mais le centre d'essai là-haut, est-ce que les populations locales savaient qu'on y faisait ce type d'essai ? Pas forcément.
Est-ce que les Finlandais voisins, les Norvégiens voisins le savent ?
Je pense qu'on devait avoir une petite idée, mais parce qu'on s'échange des renseignements. Hein.
Quand vous dites on s'échange, les Russes et les Finlandais ?
Non, entre pays occidentaux, européens, américains, membres de l'OTAN, membres de l'UE, on s'échange quand même quelques informations.
Donc ces lieux sont connus, ces lieux sont connus, surveillés, vérifiés, par satellite, identifiés.
On ne peut pas non plus avoir des satellites pour tout surveiller sur la planète en temps réel. Donc moi, je ne peux pas vous dire s'il y avait forcément un satellite américain juste au-dessus. En revanche, dans cette région-là, vous voyez la région qu'on voit sur la carte, c'est quand même une région dans laquelle il y a une activité nucléaire extrêmement forte depuis les années 1950. Donc les populations, elles savent. Et à mon avis, si elles se sont ruées sur les pastilles d'iode, c'est qu'elles savaient quand même qu'elles étaient dans une région dans laquelle il y a de l'activité nucléaire. Hein. Donc voilà, je pense que ça n'a pas été totalement une découverte. Je pense que cet essai n'était pas, sûrement pas public, il était même probablement très confidentiel. Ça n'a pas forcément été une surprise considérable pour la population de la région de découvrir qu'on faisait des essais confidentiels de technologie nucléaire. Voilà.
Bon, sauf que la transparence militaire russe n'est toujours pas au rendez-vous.
Non. Mais elle ne le saura certainement pas demain non plus. Ça ne fait pas partie de la première demande pour l'instant, certainement, oui. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on est en train de parler sur les renseignements qu'on peut donner aux populations, c'est aussi la gradation quand vous parliez du risque tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a en France, on voit bien que lorsque l'on a des sites nucléaires qui sont à proximité de la population, non seulement effectivement on les connaît, mais derrière, il y a toute une réflexion qui est mise en place pour savoir s'il y a un accident, comment est-ce qu'on alerte les populations, comment est-ce qu'elles ont à disposition les informations. On peut même voir effectivement le temps qu'on peut mettre pour avoir des secours. S'il y a des, à un moment donné, il y avait des régiments qui étaient spécialisés justement pour faire de la décontamination nucléaire, toujours pendant la guerre froide. Alors on les a réduits, mais il y en a encore, je crois, un ou deux. Mais avant, c'était encore
lesquels,
plus disséminé.
Il y a un régiment. Ouais. Autrefois, ce n'était pas des régiments, c'était tous les régiments qui étaient entraînés à ça. Aujourd'hui, il y a un régiment spécialisé qui est le 2e régiment de dragons, ouais, dont c'est le métier nucléaire, biologique, chimique. Hein, ouais. Je rappelle, pas uniquement nucléaire, hein, mais biologique, chimique. Plus les unités de la défense civile, enfin de la sécurité civile, qui sont des unités militaires pour la plupart, et qui sont entraînées à ça également.
Oui. Donc du coup, il y a un moment donné, il y a une responsabilité d'État. C'est ça qui est très important à montrer, c'est qu'il y a une responsabilité d'État qui est de dire très clairement, s'il vient à y avoir un accident, quel qu'il soit, alors ma population peut être informée, ma population peut être protégée, et on met effectivement un réseau qui est autour. Donc,
ça vous semble ne pas exister en Russie ?
Alors, ça existe forcément parce que si on voit d'ailleurs que la population se rue sur des pastilles d'iode, etc., c'est qu'il y a quand même effectivement des référents qui ont été donnés, mais il n'y a certainement pas la même exigence qui est demandée et par la population et apportée par le politique.
Une des questions que pose ce que vous avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire la demande de Vladimir Poutine à son complexe militaro-industriel de produire l'arme dont il souhaite pouvoir bénéficier, c'est de savoir si nous sommes face à un retour de la course aux armements, pourquoi pas aux armements nucléaires d'ailleurs. C'est une crainte car cet accident intervient 10 jours après un coup de théâtre, au début du mois, la dénonciation par Donald Trump du traité historique qui avait mis fin en 87 à l'escalade nucléaire entre les États-Unis et l'URSS à l'époque. Le président américain accuse justement les Russes de le violer depuis de nombreuses années. Pierre Millet-Bellandeau et Émilien David.
Août 2019, le gouvernement américain acte la mise à mort d'un traité vieux de 32 ans.
Aujourd'hui marque la fin du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, en raison de la violation substantielle de ce traité par la Russie et son refus de prendre des mesures pour le respecter. Les États-Unis, sous la direction du président Donald Trump, ont décidé de se retirer.
Depuis plusieurs années, les États-Unis accusent la Russie de développer des missiles nucléaires interdits, notamment celui-ici, le 9M729. Selon le gouvernement américain, sa portée serait comprise entre 500 et 5000 km. Il serait donc capable d'atteindre toutes les capitales européennes. Une telle portée est rigoureusement proscrite par le traité FNI. La Russie dément, mais la Maison-Blanche exige que cet arsenal soit supprimé.
Nous ne pouvons pas être désavantagés par un traité qui limite ce que nous faisons, quand quelqu'un d'autre ne le respecte pas.
L'ultimatum est posé en février dernier. Si la Russie n'apporte pas plus de transparence sur son arsenal nucléaire, les États-Unis sortiront de l'accord. C'est maintenant chose faite. Vladimir Poutine en tire les conséquences.
Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation à l'accord et nous la suspendons à notre tour.
C'est donc la fin d'un traité historique, signé en 1987 par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan, qui interdit les missiles nucléaires à portée intermédiaire. Une poignée de main, un symbole qui marque la fin de la guerre froide, et met un terme à une course effrénée à l'armement nucléaire commencée après la Seconde Guerre mondiale. Selon des estimations, il y a eu jusqu'à 70 000 ogives nucléaires dans le monde en 1986. L'arsenal n'a ensuite cessé de diminuer. Il y en aurait 5 fois moins aujourd'hui. Mais ces armes sont cependant plus puissantes. 9 pays possèdent actuellement des armes nucléaires. Mais plus de 90% de l'arsenal mondial est détenu par la Russie et les États-Unis. La fin de l'accord entre les deux plus grosses puissances nucléaires du monde inquiète la communauté internationale.
La fin du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, si on la laisse advenir, rendrait le monde moins sûr et plus instable. Cette insécurité et cette instabilité seront profondément ressenties ici, en Europe. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de revenir à la concurrence nucléaire effrénée des jours les plus sombres de la guerre froide.
Maintenant sortis de cet accord, les États-Unis peuvent développer leurs missiles nucléaires à portée intermédiaire. Et le gouvernement américain a déjà des projets.
Il y a quelques jours, le ministre de la Défense a annoncé vouloir en déployer en Asie. Leur missile serait alors capable d'atteindre la Chine. Selon cette spécialiste, c'est d'ailleurs cet objectif qui a poussé les États-Unis à sortir de l'accord.
En fait, quand les Américains se retirent du traité FNI, même s'ils invoquent une violation par les Russes, même si c'est un enjeu politique dans la relation avec la Russie, en fait, ils ont en tête d'avoir plus d'options par rapport à la Chine et de ne pas finalement avoir les mains liées vis-à-vis de la Chine, qui est vue comme un grand challenger stratégique pour demain, si ce n'est pas déjà le cas, et donc avoir plus d'options. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les matérialiser immédiatement, mais... On a clairement, là, dans ce problème FNI, la scène stratégique asiatique en ligne de mire.
Pékin, qui possède 290 ogives nucléaires, a déjà promis des représailles si de tels missiles étaient déployés. La course à l'armement ne fait peut-être que commencer.
On va y revenir évidemment en détail. Question d'abord d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. La France continue-t-elle de développer son programme nucléaire militaire? Si oui, où, comment et dans quelle proportion, en général?
Oui, alors bien sûr, modernisation de la dissuasion nucléaire est à l'ordre du jour. Il y en a un chapitre d'ailleurs dans la loi de programmation militaire qui a été votée en début de législature.
On modernise ou on cherche nous aussi de nouvelles armes?
Non, on modernise. La France n'a plus de missiles basés au sol. C'était le plateau d'Albion, n'a plus les Plutons non plus. Tout ça a été supprimé. Il y a donc deux composantes, une composante aérienne et maritime. La composante maritime, ça comporte quoi? Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Mmh. Donc il s'agit de moderniser d'abord le sous-marin, mais aussi le missile, bien sûr. Et puis la composante aérienne, ce sont les SMP, les missiles qui sont lancés à partir des avions et donc qui ont des pénétrations de plus en plus basses, de plus en plus furtives, de façon à pouvoir porter la charge nucléaire le plus à l'intérieur possible une fois que l'avion l'a largué. Donc tous ces systèmes sont des systèmes qu'il faut moderniser en permanence parce que la défense, elle aussi, se modernise. La localisation des sous-marins, l'interception, etc. Donc il faut la moderniser.
On est dans le même effort que les autres, même si on a arrêté les essais nucléaires en
95. Alors on a arrêté les essais nucléaires au sens où ça se passait dans le Pacifique, on le connaît maintenant, il y a de la simulation. Mais on doit moderniser absolument, sinon ce n'est pas la peine de garder... De la simulation par des calculateurs.
Oui. Qu'est-ce qu'on cherche comme type d'arme, nous, par exemple ?
Je répète, la pénétration des missiles, d'abord, parce que les missiles, ce n'est pas une tête, c'est plusieurs têtes, et leur capacité à leurrer tous les systèmes de défense de façon à ce qu'ils soient toujours dissuasifs. Parce que si la défense, le bouclier antimissile, etc., se développe et qu'on ne développe pas des moyens de pénétration, ben, la dissuasion tombe d'elle-même.
Oui, je crois qu'on peut dire que pour la France, et d'ailleurs pour la Grande-Bretagne aussi, on ne cherche pas des nouvelles capacités militaires, on ne cherche pas toujours à faire plus et mieux, on ne cherche pas davantage d'armes, on cherche à maintenir à niveau la capacité. On cherche à maintenir la capacité du président de la République, à dire, quel que soit le président d'ailleurs, à dire, voilà, je veux avoir la capacité d'exercer des dommages inacceptables à tout pays menaçant, qui menacerait notre existence, en tout cas ce qu'on appelle nos intérêts vitaux. Mais contrairement à ce que font les Russes ou les Américains, on ne diversifie pas la panoplie, on cherche juste à
garder la crédibilité en fait.
Du contexte, notamment celui des défenses antimissiles, celui des défenses antiaériennes, on cherche à faire la même chose. Je reviens d'un mot sur le traité.
Donc c'est toujours pour nous une arme de dissuasion.
Oui, mais pour les Russes et les Américains aussi, fondamentalement.
C'est une des questions qui se posent quand on voit le sujet. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais sur ce fameux traité FNI, je ne vais sûrement pas contredire mon excellente collègue Isabelle Facon qui parlait dans le reportage, mais je crois que fondamentalement, avant la préoccupation chinoise...
Qui disait que Donald Trump voulait, en gros, renforcer son arsenal face à la Chine.
C'est vrai. Et le Pentagone ne pouvait pas le faire légalement avec ce traité. Mais avant cela, il y a quand même l'idée qui est très forte dans l'administration américaine actuelle, selon laquelle les traités, quels qu'ils soient, que ce soit le commerce, le militaire ou d'autres domaines, ce sont des carcans. Et donc, c'est d'abord, à mon avis, une décision idéologique. C'est d'abord dire, moi, je suis l'Amérique, je suis Donald Trump, je ne veux pas être contraint, que ce soit pour mon économie ou pour mon armée, par des traités signés à d'autres époques par d'autres personnes. Pour moi, c'est d'abord ça qu'il fallait chercher. Après, on pourrait revenir sur les détails, si vous voulez, le fait que les Américains, à mon avis, voulaient aussi pouvoir un jour déployer
des camions avec des drones d'observation ou des drones de frappe, d'ailleurs, à très longue portée. Et ça, pour des raisons qui tiennent au traité lui-même, ben, c'était interdit par le traité. Donc, ce n'est pas de la course aux armements nucléaires. D'ailleurs, à mon avis, le principal problème aujourd'hui, qui est posé par la fin de ce traité, ce n'est pas du tout une nouvelle course aux armements nucléaires, c'est plutôt une course aux armements conventionnels, classiques. Les Russes, avec leur fameux missile à propulsion nucléaire, ce n'est pas un missile nucléaire, c'est un missile classique. Et aujourd'hui, les missiles qui violent ce traité, parce qu'il n'y a pas que les Américains qui le disent, les Français le disent aussi maintenant. Les Français avaient des doutes au début, maintenant sont convaincus. Et les Russes violent délibérément ce traité et ont déployé déjà 4 ou 5 batteries de nouveaux missiles interdits par ce traité. Ce traité Reagan-Gorbatchev. Et ces missiles-là, ils vont être un problème à la fois pour l'Europe et pour l'Asie. Mais c'est un problème classique, militaire, conventionnel. Ce n'est pas un problème nucléaire. Vous voyez ? Donc il y a quand même deux sujets différents. Oui. Il y a bien sûr un sujet nucléaire, mais ces traités-là, ils s'adressaient aux missiles, quelle que soit la charge, conventionnelle ou nucléaire. C'était quand même important. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, quand il y a eu cette décision de Trump, c'est un peu la fin de l'après-guerre froide. C'était un traité qui était le premier acte de la fin de la guerre froide. Pour la première fois, on désarmait au lieu de se contenter de contrôler les armements. Ben, avec la fin de ce traité, c'est un petit peu la fin de l'après-guerre froide.
Oui, on tourne une page, en fait. Hein. En 1987, il faut se souvenir que c'était la crise des euromissiles. C'était quoi ? C'était deux antagonistes, qui étaient les États-Unis et qui étaient la Russie, qui ont décidé, alors que le problème majeur était quand même l'Europe, hein. Mais c'était la Russie et les États-Unis qui décidaient d'arrêter cette escalade et menacer l'Europe. Aujourd'hui, c'est la fin, on en tourne une page. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus que les États-Unis et la Russie. Il y a aussi la Chine, il y a d'autres. Et ce n'est pas vraiment l'Europe qui est au centre du jeu. C'est ailleurs, c'est l'Asie. Donc je crois que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, comme le disait Bruno Tertrais, c'est la liberté d'action. Pour Trump, il faut qu'il ait une liberté d'action. Or, il avait des carcans, que ce soit des traités commerciaux ou quoi que ce soit, ce sont des carcans pour lui. Donc, je retrouve ma liberté d'action. Et dans la psychologie américaine, c'est très important. Nous sommes une grande puissance, donc, après tout, zut, on a le droit de faire ce qu'on veut.
Parce que les Russes se payent, voilà. On se le paye aussi,
donc,
finalement.
Donc ça, pour l'électorat américain, voir l'élection dans un an, dire, on a un président qui dit, ben, on est une puissance, on l'affirme, et on fait ce qu'on a envie de faire.
On vient d'évoquer la France, on a évoqué les États-Unis et la Russie, mais les nouveaux membres du club, alors ? Qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce qu'eux aussi avancent dans ce club avec l'idée de la dissuasion ou est-ce qu'ils y avancent avec d'arrière-pensée ? On va découvrir, évidemment.
C'est intéressant parce que c'est vrai que ce sont des conceptions qui sont assez différentes, finalement. Il y a chez les Occidentaux la notion, effectivement, de dissuasion. J'inquiète et donc, du coup, on va chercher de l'arme utile. Ensuite, chez les nouveaux arrivants, bah, vous le disiez, les Russes sont là, ils pointaient du doigt déjà les Chinois quand même depuis un bout de temps, hein, en mettant en garde sur justement ces missiles intermédiaires qui se mettaient en place et en disant qu'il fallait certainement ouvrir le traité avec du multilatéralisme. Ils ont un peu hélé les Américains à un moment donné. Et puis maintenant, les Américains en ont fait aussi leur jeu parce qu'on est effectivement sur du missile, on est sur du nucléaire, on est maintenant avec des armes qu'on appelle hypervéloces, donc qui sont aussi des armes qui vont plus rapidement. Donc du coup, les points d'impact peuvent être plus rapides. Donc c'est pour ça que toujours
plus rapide, plus loin, voler plus longtemps, si on a bien compris.
Donc,
c'est ça, les
objectifs. Voilà. Donc du coup, tout ça change avec des nouveaux acteurs, effectivement, qui arment différemment. Et aujourd'hui, on voit bien que lorsque l'on a parlé de la Chine, il faut aussi regarder du côté de l'Inde, qui est, elle aussi, avec une dotation nucléaire. À côté, il y a le Pakistan, et ça a toujours été l'un des enjeux les plus dangereux en termes de nucléaire. Alors aujourd'hui,
avec un conflit sur le Cachemire qui s'est cristallisé cet été.
Qui s'est cristallisé. On n'a pas encore parlé du nucléaire dans ce cadre-là, mais là, on est peut-être dans un autre cadre, même si on est en train d'essayer de l'éviter, c'est qu'on est effectivement avec des pays qui ont une arme nucléaire, peut-être pas à titre de dissuasion, c'est-à-dire pas à titre de gelée, et donc vous ne m'attaquerez pas par que je l'ai, mais donc du coup des armes qui peuvent servir sans qu'on s'en rende compte parce qu'on est rentré dans un conflit. Et comme on est dans le conflit, à un moment donné, on peut avoir une surenchère. Alors évidemment, il faut prendre tout ça avec beaucoup de délicatesse parce qu'il faut tenir ça.
Enfin, ça existe. Mais on sait que le Pakistan a l'arme nucléaire, on sait que l'Inde.
C'est pour ça que le Pakistan a précisé effectivement qu'il avait des missiles à courte portée, sous-entendu, je peux aller taper chez le pays voisin. Est-ce que c'est faisable ?
Il faut craindre avec cette affaire du Cachemire que ça dérape complètement ?
Oui, peut-être pas jusqu'au nucléaire, mais je peux vous dire qu'en ce moment, au Cachemire, c'est chaud bouillant, comme on dit. C'est une décision extrêmement grave que vient de prendre le Premier ministre, M. Narendra Modi, qui est la révocation du statut d'autonomie du Cachemire. Mmh. Ça veut dire que le Cachemire, qui est un petit peu le point de fixation de l'affrontement indo-pakistanais depuis 1947, et le Pakistan ne peut pas l'accepter, et il est à craindre qu'il manipule de nouveau des groupes terroristes qui vont faire des actions violentes au Cachemire, et que ça nous emmène de nouveau dans une dynamique d'escalade entre deux pays qui, effectivement, sont dotés de l'arme nucléaire.
Vous dites peut-être alors, pas jusqu'au nucléaire, mais on entend non, bien dans le mot escalade que...
Oui, mais alors, justement, il y a toujours un débat entre experts sur ce sujet, puisque on va dire que... Alors d'abord, je tiens à vous rassurer, à ma connaissance, les Indiens et les Pakistanais ont plutôt des logiques de dissuasion. Mais là où vous avez raison, c'est que eux, ils considèrent que l'arme nucléaire, c'est aussi quelque chose qui les protège pour pouvoir faire des actions sous le seuil nucléaire. Et le Pakistan, après 1998, quand il est devenu nucléaire, la première chose qu'il a fait, c'est d'envoyer les soldats dans le Cachemire pour grignoter la frontière. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, dans ce cadre-là, dans ce cadre asiatique, le nucléaire sert à autre chose qu'à la dissuasion. Et puis au-delà de tout cela, il y a bien sûr le fait, on le voyait sur la carte, c'est pas seulement des puissances nucléaires, c'est de plus en plus des grandes puissances militaires. L'Asie, c'est vraiment le grand théâtre stratégique du XXIe siècle, et c'est là que les vraies courses aux armements, notamment classiques, conventionnelles,
se déroulent. Et donc que se trouvent les vrais risques, hein, si on comprend bien ce que vous êtes en train
de dire. Et les vrais risques d'affrontement entre puissances, les vrais risques de grande guerre, à mon avis, sont en Asie aujourd'hui, depuis longtemps.
Évidemment, on prendra vos questions sur ces sujets militaires tout à l'heure, comme d'habitude dans cette émission, mais je voudrais dire un mot des risques du nucléaire civil. On ne peut pas faire une émission sur le nucléaire sans l'évoquer, bien sûr, puisqu'avec 19 sites répartis sur tout le territoire, la France est l'un des pays les plus concernés. Est-ce que vous saviez, par exemple, que 2 Français sur 3 vivent à moins de 100 km d'un réacteur? C'est un chiffre que j'ai découvert en préparant cette émission. Sofiane Aïssaoui et Diane Cacciarella se sont rendus à Nogent-sur-Seine pour voir comment les habitants vivent justement leur cohabitation avec leur centrale.
C'est une fumée épaisse qui fait partie du paysage de Nogent-sur-Seine depuis plus de 30 ans. Cette centrale nucléaire, les 6000 habitants se sont habitués à vivre avec.
Voilà, c'est notre maison, c'est là qu'on habite depuis 35 ans.
Et la centrale, elle se trouve où ?
Tout droit. À pied, il y en a pour un quart d'heure. Et en gros, il y a 2 km à vol d'oiseau.
Quand il s'est installé ici, Jean-Luc Aubert savait qu'il vivrait à proximité d'un site nucléaire.
Et on a même un beau cerisier, pommier.
Et cela ne l'inquiète pas plus que ça.
On ne pense jamais, non, on ne vit plus dans ce cas-là. Alors, on y pense quand il y a des problèmes, quand il se passe à la télé. Vous voyez, comme il y a au Japon, comme, bon, là, des fois, on se pose la question, on n'est pas loin.
Le risque, il dit ne pas y penser. Mais dans ses tiroirs, il garde pourtant cette petite boîte, des pastilles d'iode, à avaler en cas d'accident nucléaire. Toutes les communes situées dans un rayon de 10 km autour de la centrale en ont distribué à leurs habitants.
Tous les gens, obligatoirement, doivent l'avoir chez eux. Et on devrait même l'avoir sur nous.
Ah, on vous a dit ça ?
Ben oui, parce que si on est en train de se promener et qu'il arrive un problème, normalement, ça devrait être comme ça, je pense.
Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Vous l'avez toujours sur vous ?
Non. On l'a toujours à la maison, c'est tout. Voilà.
Ces mesures de prévention s'appliquent autour de tous les sites nucléaires français. La France en compte 19. La gravité des événements nucléaires est mesurée sur ces sites grâce à une échelle. Le niveau 7 fait référence à des catastrophes nucléaires comme celle de Tchernobyl ou Fukushima. Sur cette échelle, la France n'a jamais dépassé le niveau 4. C'était en 1980, à Saint-Laurent-des-Eaux. Ce jour-là, un élément métallique bouge plusieurs canaux et entraîne une augmentation brutale de la radioactivité. Le réacteur sera ensuite arrêté. Cet accident nucléaire reste à ce jour le plus grave qu'ait connu la France. Ces risques-là, la mairie de Nogent-sur-Seine les connaît. Elle se dit prête à réagir en cas de catastrophe.
Le préfet, de temps en temps, alors c'est tous les 2 ans, 3 ans, teste certaines dispositions de son plan particulier d'intervention. Par exemple, en 2018, il y a eu un exercice nucléaire, c'est-à-dire que le préfet a simulé un accident et nous avons dû mettre en place une évacuation d'un centre de loisirs un mercredi matin.
Le risque existe, mais est-il correctement évalué sur tous les sites ? Récemment, Mediapart a révélé que les problèmes s'accumulaient sur le site nucléaire du Tricastin. Problème, tous les incidents n'auraient pas été déclarés à l'autorité de sûreté nucléaire. À la suite de ces révélations, plusieurs associations ont décidé de porter plainte contre EDF.
On s'est rendu compte qu'il y avait eu une série d'événements sur la centrale du Tricastin, donc dans la Drôme, qui avait été déclarée soit trop tardivement par l'exploitant, donc EDF, soit qui avait été carrément sous-déclarée avec des éléments de langage qui tendaient à euphémiser les événements. Comme toutes les industries, il peut y avoir des problèmes dans cette industrie, sauf que quand là il y a un problème, c'est potentiellement des conséquences dramatiques.
À partir de septembre, le périmètre de distribution des pastilles d'iode autour des centrales nucléaires sera élargi. Il passera de 10 à 20 km. Ce sont 2 millions de Français supplémentaires qui seront concernés.
Question de Joël qui nous regarde depuis le Loiret. Y a-t-il des problèmes de refroidissement de nos centrales avec la multiplication des phénomènes de canicule et la baisse du niveau des fleuves ?
Alors, oui, mais alors on est très loin du nucléaire militaire russe. Il faut bien faire la différence. Là, on ne parle pas d'armes nucléaires, on parle de production d'électricité. Oui, donc sûr. On est bien dans le nucléaire D'accord. civil. Et il y a effectivement, comme l'a dit le reportage, 19 centrales en France qui produisent
qu'il
de
n'y a
l'électricité.
Pas d'installation nucléaire sur le sol français, militaire.
Militaire.
Militaire. Bah, mais civil, 19, on l'a bien dit. Donc effectivement, on est d'accord, on n'est pas dans le même sujet.
Enfin, et... Alors, le sujet de la canicule est légèrement différent. Là, il ne s'agit pas de dire est-ce que les centrales fonctionnent bien ou mal. Simplement, en période de canicule, quand il fait très chaud, il y a des normes environnementales que les centrales nucléaires doivent respecter. Mmh. C'est ce qui s'est passé lors du dernier épisode de mi-juillet, où un certain nombre de réacteurs nucléaires ont soit été mis à l'arrêt, soit ont dû diminuer leur puissance pour respecter ces normes environnementales. Il s'agit de normes environnementales sur la température des fleuves, puisque le nucléaire, les centrales nucléaires pompent de l'eau dans les fleuves, et puis elles en rejettent, mais elles rejettent de l'eau qui est plus chaude. Or, si elle est trop chaude, eh bien, elles font monter la température du fleuve, et ça, bah, jusqu'à une certaine limite, c'est interdit.
Ce que vous me dites, c'est que la centrale n'est pas mise en danger par un épisode caniculaire.
Non. Aujourd'hui, les centrales nucléaires françaises, leur sujet, c'est de respecter les normes environnementales pendant la canicule. Mmh. Éventuellement, elles sont mises en danger économiquement, puisqu'il y a un certain nombre de jours où peut-être elles ne pourront pas fonctionner. Et donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'exploitant EDF. Mais par contre, pas en termes de sûreté.
Général Trinquant.
Oui, juste pour repréciser, parce qu'effectivement, souvent, les spectateurs mélangent un peu le militaire, le civil. Tout ce qui est nucléaire, c'est dangereux. Le nucléaire, chez les militaires, il y en a deux ordres. Il y a je parlais tout à l'heure des sous-marins à propulsion nucléaire, donc c'est un moteur nucléaire, et puis le porte-avions. Et puis, il y a les armes nucléaires. Alors, évidemment que les armes nucléaires sont stockées sur le territoire français. Elles sont stockées dans des conditions de stockage et de sécurité complètes et ne sont armées qu'au moment où elles auraient
C'est-à-dire
à partir.
Ben, stockées, j'imagine, très profondément dans le sol, par exemple.
Alors, d'abord, il y a des domaines que je ne révélerai pas, que je ne connais pas, que très peu de gens connaissent. L'endroit où sont stockées les ogives nucléaires qui vont sur les sous-marins lanceurs d'engins. Et lorsque nous avons un sous-marin en patrouille, en permanence, avec des missiles prêts à fonctionner. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le Chant du Loup, qui montre très, très bien l'affaire du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui montre des sous-marins qui sont au fond de la mer et prêts à répondre à l'ordre du président d'envoyer. Donc naturellement, ils le sont. Et les charges des autres sous-marins qui vont partir sont naturellement stockées, et de même pour les avions. Mais ils sont stockés dans des conditions extrêmement sérieuses, précises, et qu'il ne s'agit pas de révéler, bien sûr.
J'ai entendu, je vous ai quand même posé la question, mais c'était aussi pour avoir cette réponse-là. On peut arrêter un réacteur comme ça ? Vous nous disiez, on a arrêté des réacteurs mi-juillet. On peut arrêter un réacteur nucléaire ?
Oui, bien sûr. On arrête très souvent même des réacteurs nucléaires. Les réacteurs nucléaires, ils ont besoin d'être arrêtés périodiquement pour remettre du combustible nucléaire, de l'uranium. Donc là, il faut les arrêter. Et puis, en ce moment, commence une nouvelle période pour les réacteurs nucléaires français, ce qui s'appelle les visites décennales. Donc on va arrêter les réacteurs un par un pendant une assez longue période qui va durer plusieurs mois pour, entre guillemets, remettre à jour ces réacteurs, puisqu'ils arrivent à un âge vénérable, qui est celui de 40 ans, qui est l'âge pour lequel ils avaient été prévus de fonctionner. Mmh. Et maintenant que le gouvernement EDF espère prolonger ces centrales de 10 ans, au moins, peut-être 20 ans pour certaines, eh bien, il faut remettre ces centrales, d'une certaine manière, au goût du jour. Et c'est notamment un enjeu en termes de sûreté nucléaire pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Et donc là, on arrête les tranches nucléaires pendant plusieurs mois pour pouvoir faire des travaux qui sont parfois très importants et qui sont par ailleurs très coûteux.
Voilà ce que j'allais dire. EDF a les moyens de maintenir la sûreté de nos centrales nucléaires.
C'est un des sujets de préoccupation en France.
Ça coûterait combien, on sait ?
Alors oui, on a une vague idée. On estime que ces grands travaux, si j'ose dire, du nucléaire français peuvent coûter autour d'1 milliard d'euros par réacteur. Il y a 19 centrales, mais en fait, il y a 58 réacteurs. Donc si vous faites le calcul, on est autour de 50-60 milliards d'euros pour EDF. Et c'est une des choses qui est pointée depuis plusieurs années par l'Autorité de sûreté nucléaire comme étant un des risques majeurs pour la sûreté nucléaire en France. En réalité, c'est l'état des finances des entreprises françaises du nucléaire, EDF et Orano, anciennement Areva, qui ont connu des difficultés financières importantes. Et EDF est encore aujourd'hui dans une situation, alors qui s'est un peu améliorée, mais qui reste assez difficile. Chez EDF, il y a 33 milliards de dettes. Quand on est très endetté, qu'on perd 100 000 clients par mois et qu'il faut qu'on investisse plus de 50 milliards d'euros dans la remise à jour des centrales, ben, faites le calcul, c'est pas facile.
En cas d'accident, non pas simplement d'incidents. On a vu les niveaux hein, tout à l'heure. Maximum atteint en France niveau 4. Fukushima, Tchernobyl niveau 7, si ma mémoire visuelle est bonne. On les revoit, merci beaucoup. Il y a des scénarios. Qui prend la main? Qui donne les informations? Qui décide de l'information qu'on délivre? Est-ce que l'autorité militaire, par exemple, à un moment, peut reprendre la main?
Non, l'autorité militaire étant à disposition localement pour remplir un certain nombre de missions. On parlait tout à l'heure des régiments spécialisés, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un dans la décontamination, la sécurité civile. Peut-être pour boucler en renfort de la gendarmerie des secteurs, mais c'est l'autorité civile, bien sûr, qui est responsable.
C'est notamment les préfets qui sont chargés de ça. On parlait tout à l'heure des pastidiodes lorsqu'on parlait de la Russie. Mmh. La France a changé, a mis en œuvre cette année...
Jean-Luc, qu'on voyait tout à l'heure, on avait chez lui. Hein,
des absolument, on voyait ces pastidiodes. La législation en France a changé cette année. On a mis en œuvre de nouvelles règles qui font que tous les habitants dans un rayon de 20 km autour d'un site nucléaire doivent avoir des pastidiodes à disposition, qui leur sont d'ailleurs donnés gratuitement.
On revient à vos questions. J'ai 4 centrales nucléaires à moins de 100 km de chez moi. Pourquoi n'ai-je aucune information ou formation ?
Alors, évidemment, si on n'est pas dans les 20 km autour d'une centrale, on ne reçoit pas de pastidiodes. Ceci dit, il arrive souvent que des préfectures ou parfois l'exploitant nucléaire, donc EDF, fasse des réunions d'information pour les habitants des zones qui sont proches. À 100 km, peut-être que c'est un peu trop loin. C'est vrai que si on parle uniquement en termes de risque de sûreté, on devrait se dire qu'il faudrait peut-être que ce téléspectateur puisse ou cette téléspectatrice puisse être informée correctement des risques.
Où sont fabriquées les bombes nucléaires françaises ?
À Valduc, en Bourgogne.
Ah, il y a un endroit précis.
Oui, bien sûr. Il était très secret pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, alors on ne peut pas le visiter.
Oui, hein. J'imagine quand même.
Très protégé. C'est là qu'on fabrique les cœurs des armes nucléaires. Uranium, plutonium, voilà. Très joli comme endroit. Enfin, la région, pardon.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de journée pour tout.
Non, pas vraiment. J'aime votre évocation poétique des usines de fabrication d'armes nucléaires. S'il y avait vraiment, réellement un autre Tchernobyl, les choses se passeraient exactement de la même façon avec les mêmes mensonges, non ?
C'est toujours la grande question. Hein. Après, c'est toujours là.
Est-ce qu'il vous semble, c'est la question, on comprend bien la question que pose cette téléspectatrice ou ce téléspectateur, c'est finalement, est-ce que les Russes ont tellement changé ?
Pas vraiment, je pense. Enfin, après, je parle sous le contrôle des uns des autres. Je pense que ce qui change, en fait, aujourd'hui, c'est pas est-ce que les Russes changent, c'est est-ce que l'information sera distribuée ou pas, quelle en est la connaissance. Mmh. Et c'est ça, fondamentalement, qui change, parce que c'est pas la réflexion en soi, elle est toujours d'être dans la discrétion et d'être dans le secret, surtout qu'on n'a pas envie d'étaler quelque chose qu'on n'a pas réussi. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a effectivement, par les réseaux sociaux, on a de l'information, on a effectivement aussi d'autres sources, donc c'est ça qui combine l'ensemble.
Évidemment, allez-y,
oui, l'information aussi, pas seulement chez les Russes, chez nous, moi j'étais en Allemagne à l'époque de Tchernobyl, on était très surpris de savoir que les nuages s'arrêtaient à la frontière allemande.
Attendez, il faudrait quand même rappeler que cette phrase n'a jamais été prononcée
par
un responsable de l'État.
Non, j'entends
cette
bien.
Cette phrase, c'est un des lointains prédécesseurs de Laurent, qui s'appelait M. Noël Mamère, qui est devenu ensuite militant écologiste, rapport de quoi vous avez fait, je ne sais pas. C'est lui qui a prétendu que les journaux
français. Je parle de l'image, parce que je pense que les mesures que nous appliquions en Allemagne n'avaient rien à voir avec les mesures qui étaient appliquées de l'autre côté de la frontière. Non, c'est ça ce que je veux dire.
À l'époque,
allez-y, mais au bout.
Dans une base en Allemagne, des militaires français, on était alertés, on prenait des tas de mesures, et on était à quelques kilomètres de la frontière française, et quand on posait la question de l'autre côté, dans les villages alsaciens, ou etc., qui étaient de l'autre côté, il n'y avait aucune mesure.
Il y a une culture de la relation nucléaire. Voilà. Autrement dit. L'Europe est-elle menacée par les activités nucléaires civiles et militaires russes ?
Les activités militaires russes concernent forcément les pays d'Europe centrale et orientale qui sont nos voisins européens, mais aussi les voisins européens de
donc
la Russie.
Les missiles dont on parle, les nouveaux missiles de Vladimir Poutine.
Oui, mais ce n'est pas seulement les missiles, il faut voir ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, on parle des missiles. Mais du point de vue des Polonais, des Lituaniens ou d'autres, le problème pour eux, c'est les démonstrations de force dans tous les domaines. Le domaine militaire, bien sûr, mais aussi le cyberespace, la désinformation, l'achat de politiciens. On a vu encore en Italie, en Hongrie, des exemples très précis. Pour eux, c'est cet ensemble de choses qui constitue la menace russe. Donc il n'y a pas que les missiles. Encore une fois, aujourd'hui, c'est très bien qu'on parle des missiles. Mais quand on parle d'une éventuelle menace russe, surtout du point de vue des pays frontaliers, il faut quand même se souvenir qu'on est dans une menace beaucoup plus multiforme que ce qu'elle était au temps de la guerre froide.
Le nucléaire militaire est-il plus dangereux que le nucléaire civil, en termes de sûreté, hein, bien évidemment ? Il est mieux contrôlé.
Évidemment, il est très contrôlé. Il n'y a que des spécialistes autour. On disait tout à l'heure, évidemment, l'endroit où se fabriquer, c'est d'une extraordinaire sécurité et sûreté, les deux. Hein, donc, je pense que c'est beaucoup moins dangereux. Ce sont deux méthodes totalement différentes. Donc c'est pour ça que ça me gêne toujours.
Mais en parce termes que quand de on... sûreté, oui, la sûreté est garantie de la même manière par l'une ou l'autre méthode. C'est ça que vous dites.
Oui, mais surtout, ce qui me gêne, c'est que chaque fois qu'on parle de nucléaire, tout le monde a comme référence la bombe d'Hiroshima, en parlant des centrales nucléaires, alors que ça n'a strictement rien à voir.
Existe-t-il des puissances nucléaires cachées ? Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turquie ? Point d'interrogation.
Non.
Vous dites non ?
Je veux dire les choses différemment. On ne peut pas prouver une proposition négative dans quelque domaine que ce soit. Donc je dirais que s'il y avait aujourd'hui un État qui s'affirme du jour au lendemain puissance nucléaire, devinez quoi, vous ne le saviez pas, mais j'ai développé l'arme nucléaire, ça serait une gigantesque surprise pour tous les services de renseignement du monde, y compris les meilleurs. Donc je ne crois pas vraiment.
Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ?
Oui, non, je pense que c'est le côté caché en fait, qui pose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment faire ça complètement discrètement, en enfouissant très loin sous le sol et que personne n'est au courant ? Finalement, on se rend compte qu'on finit toujours par être au courant, puisque sur l'Iran, on avait fini même par savoir effectivement ce qui se passait, en tout cas les Américains. Après, la question derrière, c'est qu'à défaut d'avoir des pays cachés, il y a beaucoup de pays qu'on dit être les pays au seuil, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui avec un armement nucléaire militaire, mais qui potentiellement peuvent l'être parce qu'ils ont effectivement un contexte d'armement et de recherche autour du nucléaire civil et qu'il leur faut, je crois que c'est grosso modo 12 mois pour activer du coup quelque chose qui soit militaire. Donc ça, ces pays-là, on les connaît, il y a liste. Oui. Alors par exemple, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud à un moment donné qui travaillait dessus, l'Arabie Saoudite reste avec des questions parce que après c'est toujours un jeu de rôle, c'est-à-dire de savoir quel est le pays que l'on combat et qu'est-ce qu'on a en face. En voyant ce qui se passe en Corée du Nord, forcément, le Japon est très vigilant à ce qui se fait, même s'il est protégé aujourd'hui par les États-Unis. Oui. Il y a tout ce scénario en fait, autour.
Vous avez raison de dire que d'une certaine manière, il y a aussi des passerelles entre le civil et le militaire. Mais là encore, peut-être pour rassurer les téléspectateurs, le Brésil ne peut pas faire l'arme nucléaire en 12 mois. Le Japon pourrait, en quelques mois, faire un cœur de matière fissile. Mais ce n'est pas forcément une bombe. Vous voyez, dire qu'il y a... je suis désolé de vous reprendre là-dessus, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, il y a comme ça une liste de pays qui, du jour au lendemain, en quelques mois, en 12 mois, pourraient devenir des pays nucléaires. Il y a une chose, et de fabriquer la matière, et là, vous avez raison, ça peut se faire pour des pays très avancés, comme le Japon, très rapidement.
Ou l'Iran, on s'entend.
Oui, c'est vrai. Mais d'abord, ça se verrait, premièrement, parce que ce n'est pas si facile que ça de le faire sans que les inspections internationales le voient. Et deuxièmement, surtout, ce n'est pas le tout d'avoir la matière elle-même. Il y a surtout, c'est aussi important, le général le sait bien, il y a le missile, il y a ce qu'on appelle le corps de rentrée, il y a l'avion, éventuellement le sous-marin, toute chose qui est en train de faire, par exemple, la Corée du Nord. La Corée du Nord est en train de devenir une puissance nucléaire, j'allais dire, comme les autres, entre guillemets. Mais donc, voilà, il y a quand même... Donc, il peut y avoir des liens, mais ce n'est pas avec une centrale civile qu'on fait du militaire. Non. Et les délais que vous mentionnez, à mon avis, sont un petit peu pessimistes.
Je vous ramène aux questions des téléspectateurs, parce qu'elles sont très nombreuses et je voudrais qu'on réponde au maximum de questions. Quel est le principe de fonctionnement d'un missile à propulsion nucléaire ?
Le moteur, Et le moteur est nucléaire. Je le disais tout à l'heure, nous, on le fait pour les sous-marins, pour le porte-avions, ce sont des usines à gaz. Enfin, c'est important, hein, quand même. Enfin, pas à gaz, d'ailleurs, mais nucléaire, c'est une usine. C'est une véritable usine. C'est énorme. Ça veut dire miniaturisation. Tout à l'heure, mon notaire très le montrait, c'est faire quelque chose qui est gigantesque, en faire quelque chose de tout petit et qui va permettre, chaleur. Effectivement, la durée. C'est ça, l'important.
C'est avec la chaleur. C'est avec la chaleur produite par les isotopes que l'on arrive à faire marcher une turbine et donc un petit moteur. Je simplifie. Mmh. Ce dont je parlais tout à l'heure à propos des fusées Tintin, vous savez, on a marché sur la Lune, propulsion nucléaire d'une fusée, ça c'était encore autre chose. L'idée était complètement folle, c'était de dire on va avoir un bouclier sous la fusée et on va faire des petites des mini-explosions nucléaires qui vont propulser la fusée. Ça c'était complètement dément.
Doit-on envisager que l'accident de Nyonochka ait fait plus de victimes que la communication russe à minima floue ne le laisse penser?
Alors oui, c'est une possibilité. Il y a eu un gros flou dans la communication russe, puisqu'on a parlé de 2 morts, puis de 5, sans qu'à aucun moment on explique si on parlait des mêmes personnes. En tout cas, il y a eu aujourd'hui les funérailles des 5 ingénieurs de Rosatom qui étaient concernés, donc de l'agence nucléaire russe. Est-ce que les 2 autres personnes sont différentes? Est-ce que ce sont les mêmes? On ne sait pas. Et puis, voilà. Alors maintenant, on peut se dire qu'une fois qu'on a commencé à communiquer sur un bilan, autant donner le vrai bilan du premier coup, mais on n'est pas dans la tête des autorités russes.
Est-ce que la France peut être touchée par des retombées radioactives suite à cet incident, demande Jean-Marc en Eure-et-Loire?
C'est très difficile à dire à l'heure qu'il est.
Vous ne pouvez pas dire non?
C'est difficile de dire non, absolument. On a toutes les raisons de penser que ça peut être un accident relativement circonscrit. Mmh. Maintenant, dans la mesure où les informations que laissent filtrer les autorités russes sont relativement partielles, c'est difficile d'opposer un non catégorique.
À partir de quel taux de radioactivité y a-t-il des risques pour la santé?
Alors, je ne suis pas capable de répondre à cette question.
Quelqu'un est capable?
Non, je n'ai pas.
Non, j'ai lu 10 000 micros, l'unité et le...
Le microsievert.
Merci infiniment. J'ai lu 10 000 et on en est à 16 pour ce qui est de l'incident russe, par exemple, au moment de la hausse de radioactivité.
Mais encore une fois, il y a une notion de temps. Hein.
On porte
un indicateur, le temps d'exposition est très important. C'est pour ça que les gens qui travaillent un peu dans ces circuits-là portent toujours un indicateur et on leur laisse un certain temps. D'ailleurs, ceux qui sont intervenus aussi bien à Fukushima qu'à Tchernobyl, lorsque les mesures ont été prises, ils pouvaient intervenir pendant une heure, mettons, et puis repartir parce qu'on savait que la dose ne serait pas trop importante.
Combien faut-il d'armes nucléaires pour assurer la défense d'un pays?
Alors, ce n'est pas le nombre d'armes nucléaires, c'est leur capacité à, ce que nous disions tout à l'heure, à passer dans la défense adverse, donc leur capacité à atteindre un objectif. Comprenez bien qu'une seule arme nucléaire sur une capitale suffit. Le problème, c'est qu'il faut en avoir un certain nombre, avec un certain nombre de têtes, pour avoir la certitude qu'une seule de vos armes atteindra un point dangereux et appuiera la crédibilité de la dissuasion. C'est ça le problème.
Céline Deslandes essaye de reposer la question, d'avoir l'information que je ne suis pas parvenu à avoir tout à l'heure. Où sont entreposés tous ces missiles nucléaires non utilisés? Ne sont-ils pas des bombes à retardement?
Alors, les missiles nucléaires non utilisés...
Français.
Alors, les missiles nucléaires français sont des missiles qui sont utilisés au sens où la dissuasion étant prête à intervenir, ils sont utilisés. Ils ne sont pas mis dans un coin puis on n'y touche pas. Et ensuite, vous avez les sous-marins nucléaires, ce n'est pas un secret pour personne, c'est l'île Longue, et puis les bases aériennes qui ont leurs armes à disposition parce qu'il ne s'agit pas d'aller chercher et de mettre un mois pour les récupérer.
Chaque base aérienne?
Non, les bases aériennes disposant d'avions, c'était autrefois les Mirage 2000N, maintenant ce sont les Rafales qui les transportent.
Y a-t-il des pays qui vendent leurs armes nucléaires, Bruno Tertrais?
Pas à ma connaissance.
Y a-t-il des pays? Le Kursk, c'était en Russie, Tchernobyl, c'était en URSS, l'accident d'aujourd'hui, c'est en Russie. Peut-on douter de la compétence des ingénieurs russes?
On peut douter de leur capacité et de leur volonté, surtout avec une pression politique très forte, comme c'est le cas en Russie et comme c'était le cas aussi en URSS, de leur capacité et de leur volonté à faire les choses bien avec les mêmes standards que les pays occidentaux. Attention, ils sont très bons, les ingénieurs et les scientifiques russes, et les militaires, je les connais moins bien que le général Trinquant, mais aussi des gens de grande valeur. Mais le système fait que, il y a davantage d'accidents que dans les pays occidentaux, et c'est un peu dans tous les domaines.
Dernière question, 10 secondes, où se procurer des pastilles d'iode?
Dans une pharmacie à côté de chez vous.
vous avez votre réponse, mais pour l'instant, tout va bien, vous l'avez compris, en tout cas sur le territoire français. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre de vos précisions, parfois rigoureuses et nettes. Ce C'est dans l'air sera rediffusé à 22h35. Il est évidemment, comme toujours, disponible en podcast. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5.